sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les scribes, sacrificateurs, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Matin, mon thème sera, ma maison sera appelée une maison de prière. » Et quand Jésus cite ce texte-là, il pense à Ésaïe, où le texte continue en disant, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pour tous les peuples. Ce texte m'a toujours travaillé parce que finalement, on voit Jésus dans Jean 2, un texte parallèle, on le voit arriver dans le temple et il s'assied, ou en tout cas il prend le temps de faire un fouet. Ce n'est pas une réaction impulsive qui le surprendrait et puis il saisirait au passage un fouet pour taper dans la foule des vendeurs de pigeons qui au demeurant rendaient service aux pèlerins qui avaient besoin d'acheter des animaux pour le sacrifice. Non, 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 il rentre dans le temple, il voit les choses se passer et il prend le temps de faire un fouet avant de s'exécuter. Parce qu'à un moment donné, Jésus rappelle le rôle principal, la vocation essentielle, la raison profonde du temple qui est d'être une maison de prière. S'il y a un passage, ou je dirais une attitude de David qui m'a toujours fortement poussé à l'admiration, c'est cette capacité d'être un homme de prière. Il a toujours été à nouveau et à nouveau un homme de prière. L'autre fois, dimanche dernier, on nous a parlé de David qui avait fui chez Achish et quand il a été rejeté et qu'il avait vu avec ses hommes, les femmes et les enfants être pris en otage, tout le monde voulait le trucider. Et là, alors qu'il est en proie à ses hommes de main, ses propres soldats qui voulaient le tuer parce que leur femme avait été enlevée, à un moment donné, il fait une chose extraordinaire, il s'appuya sur l'Éternel. 1 Samuel 30, versets 6 et 9. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus cruciaux de sa vie, toujours à nouveau, il a trouvé refuge auprès de Dieu. Et on voit ça comme une espèce de régularité qui n'arrête pas. Lui-même va dire dans Psaume 20, verset 1, que l'Éternel exauce la détresse. Combien souvent, dans les moments de détresse, on trouve le chemin de la prière. Mais pour combien aussi parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui me disent, mais quand ça va mal, j'ai du mal à prier. Je ne sais plus comment prier. Je ne trouve plus les mots pour la prière. Au psaume 23, il loue Dieu parce qu'il est son berger. Mais au psaume 3, il va prier de tout son être alors qu'il est en fuite devant son propre fils aîné, Absalom, qui voulait lui faire la peau. Et je pourrais continuer ainsi de suite. Et on se rappelle de ces merveilleuses prières qu'il a faites dans les psaumes 32 et 51 alors qu'il avait chuté gravement avec Bathsheba. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En écho au psaume 121 qui dit la chose suivante, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin tôt et vous couchez-vous le tard le soir et travaillez-vous de manière éreintée. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce matin, je voudrais qu'on puisse un instant considérer nos propres vies. Jésus, tout en étant fils de Dieu, a été un homme de prière. Tout en étant fils de Dieu, il a été un homme de prière. Il se savait dépendant de Dieu. Et les apôtres eux-mêmes, dans leur ministère, au bout d'un moment, dans Actes 6, vont se rendre compte qu'en étant hyperactifs, ils n'avaient pas la possibilité de tout faire. Il fallait déléguer, ils ont délégué à des diacres, et en ayant fait cela, ils se sont recentrés sur la prière et la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais avec vous voir 4 points rapidement. En nous souvenant que je ne parle pas seulement d'un temple qui est un bâtiment, mais aussi de nos propres vies qui sont les temples du Saint-Esprit. Et si quelqu'un a trouvé la prière hyper intéressante, c'était Jésus. Et toujours à nouveau, il nous amène à cela. Et pendant la louange, ça a été conduit de telle manière que je me suis dit, mais je vais m'arrêter de prêcher puisqu'il a déjà tout dit ce matin. Il a parlé de se donner à lui, d'être tout entier à lui, d'avoir un cœur pour lui, d'être à lui, de prendre du temps pour lui. Ce matin, je voudrais nous dire peut-être simplement à nous tous, nous allons dans quelques semaines étendre les cordages de notre tente et entrer dans une partie de bâtiment nouvelle. Puisse cette maison être, demeurer et rester à tout jamais une maison de prière pour tous les peuples. Nous avons autour de nous, dans nos villages et dans nos villes, de beaux bâtiments d'église qui pendant un temps ont été les témoins d'une activité, je dirais, spirituelle, plus ou moins forte. Et des gens y ont prié, et des gens ont amené des cultes, ont célébré Dieu d'une manière plus ou moins éclairée, j'en conviens. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est en train de devenir des musées. On paye un ticket d'entrée pour aller voir la cathédrale. On admire les vitraux, les colonnades, le perron, tout ce que vous voulez. Mais la vie, ce qui en faisait l'essence même, n'est plus du tout considérée. Question, que va-t-on dire de cette église-là dans 30, 50 ou 100 ans? Dira-t-on un jour en passant dans le Kingassam, ah oui, ici, un temps, il se passait des miracles. Mais maintenant, on paye un ticket d'entrée pour aller voir le bâtiment où il y avait des saints qui ont prié et les choses se passaient. Ou va-t-on dire, ça fait 50 ans, 70 ans, 100 ans, 200 ans que la vie de l'Esprit se manifeste abondamment ici. Mais le risque, ou plutôt ce qu'ont vécu différentes églises historique risque aussi de nous arriver. Et le danger, Jésus le voit. Et c'est pourquoi d'abord ce qu'il fait pour conserver la vocation principale au temple, tout d'abord il commence par le purifier. Il entre dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il a d'abord fait une première action purificatrice. Il a commencé par venir dans le temple lui-même. Jésus, celui qui a initié le temple, celui qui l'a conçu, celui qui l'a fait bâtir, eh bien, est venu dans sa maison. Et quand il est entré dedans, il y a vu des choses qui étaient en discordance avec sa pensée profonde. Et ce matin, je nous pose la question, si Jésus entrait ici ou entrait dans nos cœurs, dans le temple de nos cœurs, que va-t-il y trouver ? Que va-t-il y trouver? Que va-t-il y trouver? Pour permettre au temple de retrouver sa vocation initiale et essentielle, un lieu de prière, Jésus commence par le purifier. Et nous l'avons chanté, rien que le sang de Jésus peut nous purifier. Mais une fois que ça s'est fait, pardonnez-moi, demain il va falloir changer de comportement. Esaïe matin nous enseignait qu'il fallait se détourner des mauvaises voies et prendre des voies qui plaisent au Seigneur. Et maintenant, je voudrais vraiment insister là-dessus, que ces voies-là plaisent à Dieu. Je ne plaide pas pour un repli dans une vie monacale ou monastique. Mais je voudrais qu'on puisse nous comprendre que tout dépend de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. S'il ne guérit pas les malades, s'il n'y a plus l'onction, s'il n'y a pas sa présence, ce bâtiment n'est qu'un bâtiment. Et ce serait dommage. Et une vie chrétienne, ce n'est que de la surface et de l'apparence. Parce que nous aussi, nous avons besoin de vivre de la vie de l'Esprit, comme le sarment a besoin de vivre de la sève qui sort du cep. Dans les livres des Actes, on retrouve constamment l'Église en train de prier. Elle a prié pendant 10 jours en attendant de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et alors que commençaient les premiers miracles à se passer, il y a eu des menaces contre eux. Mais dans Actes 4:31, ils vont reprier ensemble avec une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Et là, les murs ont tremblé et ils sont sortis ragaillardis pour annoncer l'Évangile. Et constamment, on trouve les apôtres en train de prier. C'est l'apôtre Pierre qui, dans acte 10, va monter à midi sur le toit de la maison. Et là, pendant qu'il prie, il n'a pas lu l'Alsace ou le Figaro ou le Monde. Pendant qu'il priait, il a eu une vision. Et pendant qu'il a eu la vision, arrivent 2 soldats envoyés par Corneille qui avaient eu une vision d'aller chercher Pierre. Pendant qu'il priait, dans acte 16, alors que Paul et Silas avaient annoncé l'Évangile et qu'ils avaient vu des miracles, ils en étaient mis en prison, battus, roués de coups. Ils auraient pu se plaindre et se lamenter. Oh, nous les pauvres petits. Mais non, ils ont, dans leur souffrance, ils ont prié et surtout ils ont loué à haute voix. Toute la prison a entendu la louange de Paul et Silas. Et pendant qu'elle montait, un tremblement de terre eut lieu. Et il y a eu une évangélisation nocturne. En pleine nuit, le geôlier s'est converti. Pendant qu'il priait, parce qu'il priait. Je ne sais pas si vous connaissez le comte Zinzendorf. Il est né en l'an 1700 et il s'est converti très jeune. Et il a été très jeune touché par l'amour pour Jésus, la passion pour Jésus. À l'âge de 16 ans déjà, il avait créé, entre guillemets, des clubs de prière. À l'âge de 16 ans, avant de quitter le collège, il avait donné à son professeur éminent, professeur Franke, une liste de 7 groupes de prière, des groupes de maison ou des clubs de prière qui priaient, qui priaient, qui priaient. Il a aussi été celui qui a encouragé la prière en vue d'une fraîche effusion du Saint-Esprit, parce que ces groupes priaient, à un moment donné, il y a eu des baptêmes de l'Esprit puissant. Et plus tard, voilà ce qu'on dit de lui, ce mouvement de prière, ou de ce mouvement, de ce groupe de personnes, est né un mouvement de prière, une réunion de prière qui a duré 100 ans. On y a prié nuit et jour pendant 100 ans. Et de ces moments de prière sont sortis des dizaines et des dizaines de missionnaires dans le monde entier, connus sous le nom des frères Moraves. Parce qu'ils priaient. Parce qu'ils priaient. Parce qu'ils priaient. Et ils priaient parce qu'ils aimaient Jésus. Il dira la chose suivante, le meilleur antidote pour une église sans puissance est l'influence d'un homme de prière. Le meilleur antidote d'une église sans puissance est l'influence d'un homme de prière. L'évangéliste et réformateur écossais John Knox, dans la même période de temps, avait affaire avec Marie la sanglante, ou la sanguinaire, Bloody Mary, qui voulait lui couper la tête. Elle était prête à lui couper la tête. Et il dira la chose suivante de lui. Je crains plus les prières de John Knox que l'armée de mes ennemis. Il était connu pour la prière puissante. J'aimerais continuer. À mesure que Zinzendorf croissait dans sa passion pour Jésus, sa passion pour les perdus aussi s'intensifiait également. Il se détermina à évangéliser le monde avec une poignée de saints, équipés seulement d'un amour brûlant pour Jésus et de la puissance de la prière. On parle d'eux, de ses frères qui avaient appris que le secret pour aimer les âmes humaines résidait dans l'amour pour le sauveur des âmes. Nous allons changer de dimension dans quelques temps. Et je souhaiterais tellement, ma prière a été ces jours, si ça fait 15 ou 3 semaines que je pense à ce message, et cette pensée revient sans cesse, une maison de prière pour tous les peuples. Un lieu de prière pour tous les peuples. Animé d'hommes et de femmes remplis d'un esprit de prière. Pas parce qu'ils doivent prier, mais parce qu'ils aiment Jésus. Des hommes et des femmes qui retombent être amoureux du Seigneur. Et qui, parce qu'ils sont amoureux du Seigneur, repassent du temps dans la prière. On a le temps pour tellement de choses, sauf pour la prière. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je me suis rendu compte que combien vite on a tellement de choses à faire que la prière est toujours repoussée plus loin dans la journée. Et à la fin, on n'a pas le temps de prier. Seigneur, merci pour la bonne journée. Je suis fatigué. Bonne nuit. Garde-nous, Seigneur. Amen. Je ne critique personne. Je vois chez moi. Bien-aimé, avant de voir les miracles, dans ce passage précis, avant de voir le miracle, Jésus a purifié le temple. Il a réaccordé au temple sa vocation principale qui est un lieu de prière. Un lieu où il y a une transaction entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Et vous savez quoi? Ce qui se passera ici n'est pas limité à ici, ça peut se passer chez vous parce que vous êtes, je suis, le temple du Saint-Esprit dans lequel APA vit le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais nous encourager à devenir, à redevenir, à amplifier, s'il le faut, nos vies de prière. Parce que tout se passe là et tout dépend de là. Bien sûr qu'il faut agir aussi, mais la prière précède l'action, ou en tout cas, elle accompagne l'action tout le temps. Alors peut-être se peut-il que Dieu passe chez toi actuellement dans ta vie. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il me secoue. Le prunier, le cocotier. Peut-être qu'il y a un des coups de fouet qui claque dans les airs et tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Je suis ton enfant. Serait-il peut-être nécessaire que Dieu remue un peu ton certaines zones de ta vie afin que tu retrouves le chemin de la prière? On est tellement occupé par tellement de choses, même par les choses de Dieu. Et vous le savez comme moi, ce texte de Hébreux 12, verset 2, qui parle de la. De ce péché qui nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile de pécher, même pour moi. Et j'en suis pas fier. Es-tu secoué actuellement? J'aimerais te dire, mais bénis Dieu, il agit dans ta vie afin que ta vie de prière devienne efficace. Car Proverbe 18, 15, 8 dit la chose suivante, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable, le sacrifice des méchants. Il y a des gens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils vont convaincre Dieu. Ce qui va réellement convaincre Dieu de ta part, c'est que tu purifies ta vie. C'est que tu redresses tes voies. C'est que tu marches droit. C'est que tu penses juste. C'est que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. C'est que tu ailles demander pardon à ceux que tu as offensés. C'est que tu corriges ton tir. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, et je parle là aux gens qui voudraient penser que Dieu ferme les yeux. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Ésaïe 1, verset 12, et la suite. On pourrait le lire ensemble. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Verset 13. Vous pouvez les enchaîner, les suivants. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai une horreur lançant les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Et il rajoute, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il parle là au peuple de Dieu. Et il dit en substance, il faut que ce que vous proclamez de votre bouche, plutôt, il faut que vos cœurs correspondent à ce que vous proclamez de votre bouche. Parce qu'il y a l'incohérence entre les deux, dysfonctionne. Empêche Dieu de vous écouter. On ne peut pas le lundi matin, mardi midi et mercredi soir être méchant avec les autres et le dimanche, Alléluia. Alléluia. Écoute, non pas que tu doives t'arrêter de chanter Alléluia, mais en même temps, rectifier tes tirs. Et ce n'est pas toujours facile. On a pris des faux plis, on a des caractères, on a des fichus de caractères. Et Dieu nous aime avec nos fichus de caractère, mais il veut aussi les transformer, ces fichus de caractère. La prière qui prend du poids, C'est celle qui émane d'un cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est la prière qui prend du poids. Et là, les prières, peu importe qu'elles soient longues ou courtes, elles ont du poids devant Dieu, parce que la vie est en cohérence avec la parole de Dieu. Maintenant, une fois que la purification est faite, il y a un deuxième point. Jésus rétablit la prière. La prière, ce n'est pas un truc des chrétiens. La prière, c'est vraiment un privilège que nous avons de connecter avec Dieu. C'est la méthode par laquelle Dieu agit. Demandez et il vous sera frappé. Et je pourrais continuer comme ça. Là où deux s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque au Père dans le ciel, il le leur accorde. Y compris des pneus pour une voiture. Y compris des solutions pour des choses très concrètes. L'autre jour, en juillet dernier, j'étais en voiture, enfin j'étais sur le parking d'un supermarché, et puis au moment où je rentre dans la voiture, il faisait chaud, la clim se met en route, le téléphone sonne, j'avais mon coffre plein de choses, et je fais une marche arrière. Et ce qui devait arriver, arriva. Boum. Et alors, dans ma précipitation, je voulais faire la marche avant, j'ai laissé la marche arrière dedans, et j'ai rempilé, quoi. J'ai codé deux fois. Et j'ai évidemment traumatisé une brave petite dame de 65 ans. Enfin, franchement, j'étais... Et c'était moi le coupable. Je veux dire, ils n'avaient rien à faire. Alors, je suis sorti tout penaud et la seule carte de visite que j'ai, c'est celle du pasteur. Alors, je la lui ai donnée. Je dis, écoutez, madame, c'est moi qui vous suis rentré dedans. Vous inquiétez pas. Voilà ma carte de visite, mon numéro de téléphone privé, enfin, portable. Et on va s'appeler demain matin pour qu'on puisse faire un constat. Enfin, je veux dire. Entre-temps, dès le lendemain, ces braves personnes, et je les comprends, ont fait un devis auprès de leur garagiste habituel, 600 euros. Et 600 euros. Et puis, ils avaient appelé l'assurance, et l'assurance disait, mais écoutez, c'est un parking, c'est 50-50. Peu importe qui est coupable, c'est 50-50. Oh. Vous sentez bien, hein? J'étais vraiment content. Mais une voix me disait, c'est pas juste. Une petite voix me disait, c'est pas juste. La petite dame, elle était sortie, elle était dans le couloir, et toi, tu es rentré dedans. T'as pas regardé. Je disais, oh, mais écoute, l'assurance dit que. L'assurance dit. Et vous savez, quand vous avez donné une carte pastorale, hein, vous êtes comme ça un peu. Un peu dans l'obligation d'être intègre, voilà. Plus vite que d'habitude, mais là, vous devez être intègre. Et alors, pendant qu'on causait, une pensée me vient. Si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, si la tienne ne dépasse pas celle des assureurs, ta religiosité vaut rien. Mais ça veut dire 600 euros, hein? Et on a 600 types, il y a eu. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai bagarré, hein? Je me suis bagarré intérieurement, j'ai dit, bon, ok Seigneur, tu sais qu'on part en vacances dans 3 semaines. Ça m'aurait fait du bien, ces 600 euros dans la poche, hein? Franchement. Mais j'ai dit, Seigneur, tu as dit, c'est ta justice. Passe pas celle des scribes et des pharisiens. Ta religion vaut rien. Alors j'ai dit, écoutez, monsieur, dame, voilà ce qu'on va faire. Vous avez demandé un devis à votre garagiste, j'en veux un de mon garagiste à moi. Pas de souci, monsieur le pasteur. Ils sont allés. Et dans la journée, je reçois le coup de fil de mon garagiste, il me dit, hey, Claude, écoute, ça fait 300 euros. J'ai dit, je prends. Tout de suite. On passe sans assurance, je prends. Et les gens étaient contents, très contents. Au passage, on a pu expliquer, cette brave dame a une petite fille qui est handicapée aussi, du coup on a parlé de handicap, enfin c'était vraiment intéressant. C'est pas fini d'ailleurs, on va devoir les revoir prochainement. Mais je me suis dit, ça fait quand même 300 euros, hein. Ça fait quand même 300 euros, et les vacances, hein, et les vacances. Et donc on est parti en vacances. Et je priais, je dis, Seigneur, tu vois, j'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas juste. Ben, j'ai payé, hein, j'ai payé. Et écoutez la meilleure. Je viens chez des. Je pars en Pologne chez des gens que je connais un petit peu, pas beaucoup. Des vrais frères, enfin dans le sens. Ils ont tout fait pour qu'on ait un beau séjour. Et quand je voulais payer à l'hôtel, la dame me dit, mais c'est déjà payé, monsieur. Tout est payé. Je dis, mais qui a payé? Mais vos amis ont payé. Ça faisait largement plus que 300 euros. Un temple purifié. Un temple qui marche droit. Je ne dis pas que je suis parfait. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas parfait. Mais un temple qui... Un cœur qui fonctionne droit avec Dieu. Et la base pour la prière. Et après, on peut prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Jésus avait l'habitude de prier. Marc 1, 35 ou 36, il est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il, au début de son ministère, il priait. Au milieu du ministère, alors qu'il était au sommet de son ministère, alors que la foule le suivait, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient derrière lui, il avait ce besoin de retrouver Dieu dans la solitude. Matthieu 14, verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il était seul pour aller prier à l'écart. Puis à la fin de sa vie, la veille de son arrestation, on le trouve à Gethsémané, de nouveau dans un lieu de prière. Et il a prié, Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus a prié là, une des prières les plus agonissantes de sa vie. Et il a prié pour qu'il puisse avoir la force d'accomplir la volonté de Dieu. Il a prié pour qu'il ait la force de résister aux tentations qui étaient les siennes, celles de dire, je lâche tout, je quitte tout, tant pis pour tout le monde. J'évite la croix. Mais il a prié. Verset 40, il inverse les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Jésus priait, les disciples ronflaient. Encore aujourd'hui, Jésus n'est pas au ciel en train d'attendre patiemment qu'on vienne en buvant un bon petit verre de vin et en mangeant une bonne chose. Non, non. Il est dit dans Hébreux 7, 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce non transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, etc. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, encore aujourd'hui, est en train de prier et d'intercéder pour nous. Il y a bien des fois où tu tiens debout parce que lui a prié pour toi. Et si tu veux savoir où trouver Jésus, devine où tu vas le trouver. Aujourd'hui, dans un lieu de prière. Parce que Jésus prie. Et il a prié. Et si tu cherches le Seigneur, devine où tu le trouveras. C'est pourquoi il enseigne ainsi quand tu pries, Matthieu 6, 6. Entre dans ta chambre, ferme la porte, coupe ton portable, débranche Internet. Fais le tour avec le chien avant. Et là, dans le secret, prie ton Père. Mais prie, puis-je te demander, comment va ta vie de prière? As-tu un lieu de prière chez toi? Il fut un temps, il y a des années, on parlait de culte personnel. As-tu un culte personnel? J'ai pas dit familial, j'ai dit personnel. Familial en plus c'est bien, mais personnel. As-tu un endroit dans ta maison où on sait qu'on peut te trouver pour prier? Ça peut être le salon, ça peut être le bureau, ça peut être tout ce que tu veux. Mais as-tu un lieu? As-tu un temps défini dans la journée? Il y a les uns, c'est des hirondelles, les lève-tôt. D'autres, c'est des hiboux, les oiseaux de nuit. Que tu sois l'un ou que tu sois l'autre, pourvu que tu pries. Moi, je suis plutôt hirondelle, j'aime bien le matin tôt. J'aime ça, le matin tôt. Le soir tard, je suis fatigué, ma tête est ailleurs, je... Ça plane pour moi. Spurgeon disait la chose suivante, nous pouvons prier à n'importe quelle heure. Je le sais, nous le pouvons. Mais je crains que ceux qui ne prient pas à certaines heures ne prient guère. Spurgeon a une vie de prière. Wesley priait. Luther priait. Jean-Peter Schmitt priait. Mes parents priaient. Prions. La vie normale du disciple est une vie de prière quotidienne. Évidemment qu'il y a des fois des semaines extrêmement terribles. Où on vient au culte pour chercher, pour puiser. Mais bien aimé, le culte, c'est ce que ça veut dire. On vient rendre un culte à Dieu. Parce qu'on a vécu avec Dieu des choses dans la semaine. Et la vie de prière n'est pas une option, c'est pas un truc qu'il faut faire. C'est un truc extraordinaire. Parce que plus tu pries, plus ça marche. Il y a un proverbe bavarois qui disait sur une porte cochère d'une ferme la chose suivante. Comme l'affûtage de la faux ne ralentit le fauchage des champs, ainsi la prière ne ralentit pas ton ouvrage. Voilà une faux. C'est un outil ancien. Et voilà une pierre à aiguiser. Je vais te montrer les photos que j'ai amenées là. J'ai trouvé des photos sur internet l'autre jour. Voilà deux faucheurs en Suisse, dans le canton de Douri, qui montent dans les alpages, dans des inclinaisons de pente où la machine ne passe pas. Ils vont faucher. Regardez voir ce qu'il fait le vieux monsieur là-bas. Photo numéro 2. Il affûte. Il affûte la veau. Je sais, vous allez me dire, Claude, hein, tu n'as pas la main. Je sais, c'est pour ça que Georges va venir le faire à ma place. Ce monsieur disait la chose suivante, lorsqu'il fauche, tous les 5 à 6 mètres, il s'arrête pour aiguiser. Pardon Georges. Montre-nous ça, comment on fait un affûtage. Ah. Encore un coup, hein. Merci beaucoup. Merci Georges. Excuse-moi. Vous savez, cet engin, j'ai déjà utilisé. Alors, des fois, je suis cassé parce que tu vas de travers, tu piques dedans, tu tapes des pierres, et dès que tu tapes une pierre, tu peux recommencer à aiguiser. Mais quand tu fauches et que tu avances, très vite, tu sens, quand ça devient difficile, quand ça n'avance plus, tu sais, stop, il faut que je raffute. Ce monsieur le faisait tous les 5 à 6 mètres. Donc ça veut dire qu'il prenait régulièrement du temps pour affûter sa faux. Bien des fois, nous nous fatiguons, nous nous épuisons pour la bonne et simple raison que la faux n'est pas affûtée. Et c'est pourquoi je vous invite à faire de l'affûtage régulier. Autrement dit, à prier. Paul le dira ainsi, priez sans cesse. Priez sans cesse, priez en tout temps. Avant le repas, après le repas, avant qu'on commence un travail. Et peu importe, mais la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça affûte la faux et ça fait avancer le travail plus vite. C'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Tu gagnes en productivité. Tous les patrons de France devraient obliger les ouvriers à prier. Ils gagneraient en productivité. Et quand la prière est faite, voilà les effets qui arrivent. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Le temple est purifié, on prie dans le temple. La chose évidente qui arrive, c'est la puissance de Dieu se manifeste. J'ai envie de dire, pourquoi si peu de puissance dans un certain nombre d'églises ou de vies? Une des raisons fondamentales, c'est souvent le manque de prière. Je ne pointe pas les gens du doigt, mais je dis, bien aimé, le manque de prière... Avec une vie accordée à la parole, manque de prière, avec une vie qui manque d'être accordée à la parole de Dieu, et vous fait freiner, vous freine dans l'avancement. Deux Chroniques 7, 13 dit, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Remarquez voir, il n'est pas dit si mes pasteurs, si mon, entre guillemets, mon clergé s'humilie, prie, si mon peuple s'humilie et prie. Ça veut dire que chacun de nous est concerné. Parce que l'onction collective est le résultat de l'onction individuelle de chacun. Et c'est pourquoi nous sommes invités à accorder chacun pour sa part sa vie par rapport à la parole de Dieu. Et alors la prière va monter, elle est efficace. Et quand on se retrouve, alors l'onction augmente. Et des choses se passent. Au point que des croyants, entre guillemets, tout simples, voient des guérisons de malades, comme on l'a entendu dimanche dernier, et je m'en réjouis. La puissance de Dieu devient naturelle. Et puis enfin, une fois que la puissance de Dieu s'est manifestée, réaction tout aussi naturelle, on se met à louer Dieu. On se met à louer Dieu. On ne fait pas de la chansonnette évangélique. On loue Dieu pour ce qu'il fait. On ne loue pas nos louanges, mais on loue Dieu pour ce qu'il réalise. Évidemment, il y aura toujours ces fameux scribes et ces pharisiens, ces gens agacés de ce que Dieu fait. Ces pompiers qui éteignent le feu de l'esprit. Mais il y aura aussi des hommes et des femmes, comme les enfants, qui vont louer Dieu de tout leur cœur et de tout leur être. Parce qu'ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Ils ont vu Dieu répondre à des prières de ci, de là, à la maison, en voiture, au travail. Ils ont vu Dieu agir. Parce que la prière est devenue efficace. Je conclus. Jésus entra dans le temple. Ce matin, il est venu dans ce temple. Et ce matin encore, il voudrait entrer dans ton temple. Et s'il y entre, que va-t-il y trouver? Je ne voudrais pas pointer qui que ce soit du doigt, ni condamner, ni... Et en même temps, que va-t-il y trouver? Une caverne de voleurs? Ou une caverne de voyeurs? Ma maison sera appelée une maison de prière. Puisse ce lieu être connu dans les décennies à venir comme un lieu de prière pour tous les peuples, pour un lieu où on loue Dieu de tout son cœur. Peu importe si la musique est tout à fait parfaite ou pas, peu importe. Mais pourvu que les cœurs louent Dieu et l'adorent et que la puissance de Dieu se manifeste. Puissent nos vies être des temples où on trouve une vie de prière, une vie de prière intense. Comment va ta vie de prière? Un peu? Beaucoup? Passionnément? Pas du tout? Un peu? Beaucoup, passionnément, pas du tout. On ne peut pas toujours vivre sous l'onction de l'autre, sous l'onction du collectif, sous l'onction du père ou de la mère, sous l'onction du mari ou de la femme. Autrefois, on disait, j'ai un oncle dans les ordres. Ça ne me sert à rien du tout. Comment ça va monter au ciel, ça? Aujourd'hui, on entend, mais mon père prie pour moi, mes parents prient pour moi, mais ma soeur prie pour moi, mais c'est toi qui es appelé à prier tout seul. C'est toi qui es appelé à prier et avoir une activité personnelle dans la prière. Voyez-vous, il y a comme ça, dans la vie, des activités indubitablement individuelles. J'ai beau manger deux portions, si Caroline ne mange rien, elle va maigrir. Pas manger à sa place, il faut qu'elle mange, elle, des choses, parce que c'est pas possible. Sinon, je vais grossir, qu'elle va se rétrécir. Je peux pas boire à sa place, ni dormir à sa place. Ainsi, je peux pas non plus prier à sa place. Je peux prier pour elle, elle pour moi, mais à un moment donné, j'ai à prier moi-même, à passer du temps moi-même avec Dieu. Vous savez, des gens qui pensent que parce que l'autre prie, le conjoint, la conjointe prie pour nous, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Dieu a plus pour toi. Et Dieu veut rentrer en relation avec toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. J'aurai un temps de communion avec lui. Un des plus beaux versets de la Bible, aussi un des plus tristes. Parce qu'on se rend compte que le maître de l'église, la tête de l'église, est à la porte. Ce serait terrible si un jour Jésus était à la porte ouverte. En trouvant la porte fermée, en devant frapper à la porte en disant « Hé les enfants, laissez-moi rentrer, je voudrais rentrer chez vous. » Écoute, on n'a pas le temps, on a un programme. Se pourrait-il que ma vie, votre vie, nos vies soient trop occupées, trop remplies d'un tas de choses à faire, y compris pour Dieu. Et que Jésus doive nous dire, comme il l'a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne place et elle ne lui sera pas enlevée. Elle a pris du temps pour être à mes pieds pour m'écouter. » Ce pourrait-il que nos temples soient peut-être souillés de mille et une choses. Ne pensons pas qu'à la pornographie, mais d'autres choses, de l'amertume, de la haine, de la méchanceté, de l'ambition mal placée, de l'orgueil. Que Dieu soit obligé de se retirer et de dire « je tape à la porte, laisse-moi entrer s'il te plaît, j'aimerais te parler. » Se pourrait-il que tu sois secoué dans ta vie? Que Dieu le fasse exprès. Jésus a pris un fouet, a commencé à dire « Maintenant, ça suffit. Je veux que tu progresses. Je veux t'amener plus loin. » Ne sois pas forcément fâché avec Dieu. Au contraire, remets-toi en question. Reviens à lui. Se pourrait-il tout simplement que Dieu ne soit encore jamais entré dans votre vie? Alors là, je comprends que prier, c'est difficile. Là, c'est un acte religieux. C'est compliqué. Mais avant d'être né de nouveau, honnêtement, la prière, c'était un truc barbon. Mais quand j'ai reçu Christ au fond de moi, mais aller à l'église, c'était une joie. En fait, j'allais à deux cultes de dimanche, un le matin, un le soir. Tellement j'avais soif de Dieu, j'avais envie de voir Dieu. J'aimais Jésus, j'étais amoureux de lui. Mais au fil du temps aussi, cet amour peut prendre des variations. Et tout l'enjeu, c'est de garder le premier amour éminemment chauffé à blanc. Pour que la vie de prière reste une vie normale mais joyeuse, un temps de communion avec Dieu. Jésus entra dans le temple. A-t-il peut-être besoin d'entrer chez toi ce matin, ou d'y réentrer, ou d'y retrouver une place de choix, la première place, et aussi du temps de choix, du temps dans ta vie, dans ton programme de la semaine, plutôt que de partir maintenant rapidement dans nos maisons, réfléchissons un instant. Jésus est venu au temple, il a purifié le temple. Il lui a redonné sa vocation initiale, un lieu de prière pour tous les peuples. Et puis ensuite, il y a manifesté sa puissance qui a débouché dans la louange. C'est mon souhait pour l'Église, c'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Avant d'être de clôturer, je voudrais vous inviter à un instant de recueillement. J'inviterai pasteur Sam à me rejoindre et qu'on ait après un temps de prière. Je voudrais que tu puisses un instant considérer tes priorités cette semaine qui vient. Peut-être avant de partir, de dire Seigneur, à partir de maintenant, je veux te donner telle place, tel temps dans ma vie. Oui, je reconnais que ceci, que cela. Mais qu'en sortant de là, tu prennes des décisions pour toi-même. Que ta maison, que ton temple, le temple de ta vie, soit une maison de prière, où la prière monte tous les jours. Pas seulement sporadiquement, épisodiquement, un peu au repas, un peu le matin, un peu le soir, mais où il y a un temps où tu prends du temps. Mes frères, rappelez-vous quand vous étiez amoureux de votre femme. On avait du temps pour elle. On trouvait du temps. Mes sœurs, rappelez-vous, quand vous étiez amoureux de votre chéri, vous trouviez du temps pour lui. Avant le mariage, après le mariage, vous trouviez du temps. Puissions-nous, puisse l'Église être animée d'un du feu du premier amour. D'un feu qui ne s'éteint point, d'un feu qu'on alimente. Et où alors, concrètement dans la vie de tous les jours, ça se traduit par du temps. Du temps qu'on offre, du temps de choix, le meilleur de la journée pour le Seigneur.